Éternel grand Dieu, nous sommes assemblés ce matin pour élever ton nom, Seigneur, dans nos cœurs. Nous voulons nous arrêter, reconnaître que tu es Dieu par nos chants, par nos louanges, en nous assemblant. Nous venons, Seigneur, de différents milieux, mais ce qui nous unit, c'est le nom de Jésus-Christ. Nous sommes assemblés ce matin, Père, dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. C'est ce nom, Seigneur, qui forme de nous une famille, qui fait de nous une communauté, Seigneur. Gens de la maison de Dieu à cause de Jésus-Christ. Seigneur, c'est humblement que nous nous sommes assemblés pour venir écouter ta parole, te rencontrer, élever ton nom, chanter tes louanges. Humblement, Seigneur, parce que nous sommes pécheurs. Nous avons tous manqué, Seigneur, cette semaine, d'une manière ou d'une autre. L'apôtre Paul nous dit que nous bronchons tous de plusieurs manières, Seigneur. Humblement, nous nous approchons devant toi avec cette confiance uniquement dans le sacrifice de Jésus-Christ sur cette croix pour nos péchés, Seigneur. Et c'est armé de cette espérance dans le sacrifice de ton Fils que nous venons confiants. Confiants, Seigneur, de ton bon regard sur nous, de tes bontés sur nos foyers, sur nos maisons, sur nos cœurs, sur cette assemblée, Seigneur. Confiants, Seigneur, que tu nous prépares une place au ciel, et qu'une vie meilleure nous attend encore à cause de Christ, Seigneur. Humiliés par nos propres péchés, mais confiants et nous réjouissant de ton œuvre, Jésus, à la croix. Seigneur, nous voulons te prier pour cette province, pour ce pays, pour ce monde, Seigneur, qui a tant besoin de cette grâce, de connaître Jésus-Christ, Seigneur. Ce monde qui déjà est jugé parce qu'il n'a pas cru en toi, Jésus, a besoin d'entendre ta voix. Cette ville, Seigneur, a besoin d'entendre le nom de Jésus-Christ afin de se détourner de ses péchés et de connaître cette grâce que nous avons connue, Seigneur. Nous te prions pour cette ville, pour les autorités de cette ville, pour cette province, pour ce pays, Seigneur. Viens et fais grâce, ô Dieu. Viens les rencontrer là où ils sont, dans ces sphères d'autorité où ils prennent des décisions tellement grandes qui ont un impact sur des millions de vies, Seigneur. Mets ta main sur eux. Préserve nos libertés afin que nous puissions vivre en toute liberté de conscience notre foi et proclamer ton nom, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour ce pays d'abondance. Viens, Seigneur, mets ta main sur ces autorités. Nous te prions, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui ont été retenus à la maison ce matin par la maladie et qui souffrent de ne pas être en communion avec nous ici ce matin, Seigneur. Viens les consoler. Donne-nous, Seigneur, cette affection pour aller vers eux cette semaine, pour aller les réconforter, pour prendre un moment, pour les appeler, pour les chérir. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui se sont éloignés de l'Église, qui sont allés s'éloigner de la protection, Seigneur, de l'Église, et qui errent dans ce monde, qui ont besoin d'être amenés à la maison. Aie pitié d'eux, Seigneur. Utilise-nous pour aller vers eux humblement encore une fois, les encourager à revenir à la maison. Nous te prions pour eux ce matin, Seigneur. Aide-nous à être trouvés fidèles pour intercéder, pour prier pour eux et pour nos familles et pour notre entourage qui a besoin de te connaître, Seigneur Jésus. Nous te prions, Père, pour ceux et celles ce matin qui sont venus ici avec un fardeau sur le cœur lourd, accablé. Le cœur distrait, Seigneur, de tes grâces, de tes bontés, par une épreuve, par des combats, par une lutte, par un péché, Seigneur, dans leur vie, simplement par la maladie, par un emploi perdu, Seigneur. Père, viens les rencontrer ce matin par la puissance de ton esprit. Viens, Seigneur, toucher leur cœur, leur dire combien tu les aimes, que tu es vivant, que tu n'es pas indifférent, Seigneur. Rappelle-leur tes grâces ce matin dans la communion de l'Église. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans la joie. Tous ceux qui savourent actuellement la grâce de notre salut. Le privilège d'être en communion avec l'Église de Dieu. Viens nous rencontrer et nous transformer davantage encore. À l'image de Christ, Seigneur, nous t'en prions. Père, pour cette situation particulière avec notre frère Normand et notre sœur Lise, nous voulons te demander de venir exprimer ta volonté, Seigneur. Nous sommes tous tes serviteurs, tes servantes. Et nous ne voudrions pas, Seigneur, faire la promotion de projets personnels. Avancer sans ta bénédiction, Seigneur. Loin de nous ce désir. Alors que Normand et Lise prennent un temps à l'écart pour se reposer avec leur famille, viens t'exprimer à travers l'Assemblée de Gatineau aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix. Et nous accepterons, Seigneur, ta décision. Parce que nous voulons faire avancer ton œuvre, Seigneur. Confiant que tu bâtis ton Église. Enfin, Père, je veux te demander de venir me remplir de ton esprit ce matin. Je suis pécheur, Seigneur. Je n'ai pas encore atteint le but, Seigneur. Et j'ai besoin que ton esprit me remplisse ce matin, afin que ce qui sort de ma bouche soit conforme à ta volonté, conforme à ta parole, Seigneur. Vécu dans ma propre vie, Seigneur. Et c'est seulement par ta grâce que je peux le faire. Seulement par ta grâce, Seigneur. Viens, nous voulons t'entendre nous parler, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Matthieu, au chapitre 17. Merci beaucoup. Oh, merci. Matthieu, chapitre 17. Cette semaine, j'étais au dépanneur, dans un dépanneur, puis il y avait deux jeunes gens qui étaient à côté de moi. Il aurait pu être jeune, il aurait pu être moins jeune, c'est un addon, mais il y avait deux personnes qui étaient là, puis j'ai juste comme entendu leur conversation, ils étaient les prochains qui allaient venir à la caisse, puis est-ce que j'ai bien compris qu'il y avait un gros lot de 49 millions cette semaine? Ça se peut-tu? C'est ça? Fait qu'il était à côté de moi, puis hey, 49 millions, 49 millions. Oh. Ça m'a frappé. 49 millions, c'est de l'argent, tu sais. Hein? Non, mais pensez-y. Je veux dire, t'arraches le toit, tu le fais lever, n'importe quoi, tu sais. 49 millions. C'est de l'argent, pareil. Dernièrement, il y a un frère, puis, en fait, ça a commencé avec une question d'un frère, puis il m'envoie un courriel, puis il me demande, Yannick, est-ce qu'un chrétien peut acheter des billets de loto? Je ne m'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui. J'avais le goût de répondre. J'avais juste le goût d'écrire l'opium du peuple. J'avais juste le goût d'écrire ça, mais je me suis étendu un peu plus que ça. C'est une bonne question, hein? Est-ce qu'un chrétien pourrait acheter des billets de loto? On reviendra peut-être un autre jour ensemble. Mais la question que le frère a posée a amené une autre conversation après. Puis là, il y a une sœur qui partageait. Elle dit, tu sais, bon, OK, je sais, là, tu sais, mais tu sais, des fois, là, tu sais, j'ai déjà imaginé avec quelqu'un tout le bien que je pourrais faire avec cet argent-là. Tout ce qu'on pourrait faire si j'avais de l'argent comme ça, tu sais. Honnêtement, là, qui ici n'a pas imaginé qu'il gagnerait un gros lot incroyable puis tout le bien qu'il pourrait faire, à part moi, là? Je suis certain que vous avez tous fait ça déjà. Bastien, il y a 9 ans, Jade, 11 ans, puis dans la dernière année, mes enfants sont arrivés. Ils ne sont pas vraiment conscients de ces affaires-là de l'auto, mais juste l'idée, tu sais. Les deux sont arrivés dans des moments complètement différents, ils ne s'étaient pas parlé, puis imaginez tout ce qu'ils feraient s'il y avait beaucoup d'argent, tu sais. J'achèterais un gros bateau, là, puis je mettrais plein de nourriture dedans, là, puis j'irais le porter aux pauvres. Je veux dire, qui n'a pas imaginé ce qu'on ferait si on avait énormément d'argent comme ça, puis tout le bien qu'on pourrait faire? Et on se prend à rêver qu'on aurait comme un gros magot d'argent, un prince, une princesse, qu'on aurait du pouvoir, de l'autorité, plein d'argent à notre disposition. Puis franchement, qu'est-ce qu'on ferait? On serait là, puis on aurait tout ça, puis là on dirait, je vais en donner un petit peu ici, je vais en donner un petit peu là. Mais dans le scénario, là, ah, faut chaud dans la caméra, hein, excuse-moi. Parce que j'ai pas de micro ce matin, le micro marche. Vous pouvez m'enchaîner aussi. Honnêtement, qu'est-ce qu'on fait dans notre scénario? Je veux dire, est-ce que lorsque vous rêvez à ça ou vous avez déjà rêvé à ça, tu sais, évidemment, on ne rêve pas des choses comme ça. Mais quand vous avez déjà rêvé à ça, est-ce que votre scénario, c'était du genre, j'ai 100 millions de dollars? Ça me prend quoi? 30, 40 000 pour arriver cette année, 50 000? Je vais garder ça, je donne le reste. À chaque jour, bon, peut-être cette année, à chaque année, suffit sa peine. Puis je donne le reste au Seigneur. Puis on fera confiance au Seigneur, il l'a donné une fois, il peut le donner deux fois. C'est ça le scénario? Moi, je pense que c'est plutôt 10 %. Hey, écoute, on peut peut-être aller à 11. 11 pour 100 millions, tu sais, je donne 11 millions. On va placer 89, vivre ses intérêts, tout ça, quitte. Ah, finalement, le scénario, c'est ça fait pas mal. On rêve d'être généreux, mais c'est une espèce de version un peu bizarre de, tu sais, on donne les restants de table. Ils sont tellement gros, les restants de table, que, tu sais. Oh, Bruno, tu veux partir une œuvre? Un petit chèque de 100 000? Je suis comme ça, moi. Je suis comme ça. Ce matin, on va aller voir dans les Écritures un prince. Un prince qui possédait beaucoup. Beaucoup de pouvoir, beaucoup d'autorité. J'ose même pas dire beaucoup d'argent, beaucoup. Beaucoup de tout, pour ne pas dire tout. Et on va voir quelle attitude il a eue à l'égard de ses biens, de ses droits, de ses devoirs, de ses libertés, de sa richesse. Quelle attitude est-ce que lui a eue et qu'est-ce qu'il a à nous enseigner, nous? On va tourner ensemble dans Matthieu 17, si vous n'y êtes pas déjà, au verset 22. Matthieu 17, 22, et je vais vous lire jusqu'au verset 27. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Je fais juste un commentaire parce que je ne reviendrai pas sur ce passage-là. Les disciples commencent à saisir qu'ils vont mourir pour de vrai, mais ils ne comprennent pas qu'il va ressusciter. Quand on commence à cheminer. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes? » « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, c'est-à-dire qu'il parla avant lui, il alla au-devant de lui et dit, « Que t'en semble, Simon? » C'était l'autre nom de Pierre. « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. » Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire qui valait le prix pour les deux, 4 drachmes. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. » Explication un petit peu. Je dois déjà vous dire que la taxe qui était en train d'être perçue ici, ce n'est pas les Romains qui la percevaient. C'est vraiment important de savoir ça Et c'est ce qui fait que des fois, on a de la difficulté à comprendre ce qui est en train de se passer ici. Un petit peu plus loin, on est dans Matthieu 17, on va arriver dans Matthieu 22. Dans Matthieu 22, il va y avoir des questions qui vont être posées. Est-ce qu'on devrait payer l'impôt à César? Quelle va être la réponse de Jésus? Remets à César ce qui est à César. Hein? C'est l'effigie de qui sur votre argent? C'est l'argent romain, redonne-le aux Romains. Oh, OK. Paye. C'est ce qu'il dit là. Matthieu 22. La taxe qui est perçue ici n'est pas une taxe qui est perçue par les Romains. C'est une taxe qui est perçue par les Juifs pour l'entretien du temple. D'accord? Cette taxe-là était inspirée d'un passage dans Exode 30 au moment de la construction du tabernacle, ce qui a précédé le temple, au moment de la construction de la tente et tout ça. Moïse a dit, en fait, l'Éternel a dit, on percevra un demi-shekel à tous les mâles qui ont plus de 20 ans, et ça va aller pour l'entretien du tabernacle. D'accord? Et les autorités juives, à travers les siècles, s'est inspiré de cette parole-là dans Exode 30 pour mettre sur pied une taxe pour l'entretien du temple. On sait que c'est ça, Josephus, l'historien, en parle. Les livres juifs très importants comme la Mishnah expliquent comment fonctionnait la perception de cette taxe-là. Donc, c'est très important de savoir qu'il s'agit ici d'une taxe non pas perçue par les autorités romaines. C'était même pas, en fait, une taxe qui était ordonnée par Rome pour l'entretien du temple. C'était toléré, tout simplement. Les historiens nous racontent même que quelque temps avant la destruction du temple, vous savez que le temple va être détruit par les Romains en 70, autour de 66, avec l'argent perçu dans cette taxe-là, le montant a été rendu tellement élevé, c'est un fait historique qui nous est rapporté, d'accord? Le montant était rendu tellement élevé que les autorités juives savaient plus quoi faire avec. C'était trop pour simplement entretenir le temple. Ils ont décidé de faire fabriquer une vigne en or. Pour représenter quelque chose, d'accord? Simplement pour utiliser l'argent. Alors, il y avait beaucoup d'argent qui était perçu à travers cette taxe-là. C'est une taxe qui était perçue auprès des Juifs, les hommes de plus de 20 ans, un demi-shekel ou deux drachmes, d'accord? Et qui servait à l'entretien du temple à Jérusalem. C'était pas un impôt romain. C'était un impôt qui était perçu par les Juifs. Et encore une fois, les livres historiques, les informations qu'on a dans les textes historiques autour nous disent, nous apprennent que les prêtres n'avaient pas à payer cette taxe-là et que les rabbins, un rabbin c'était un docteur de la loi, un enseignant juif qui consacrait une bonne partie de sa vie à étudier la loi juive, qui était écouté comme enseignant de la loi, les rabbins qui étaient officiellement reconnus par la communauté juive étaient aussi exempts de cette taxe-là. Hop, déjà, ça amène un petit peu de lumière sur la question. Hein? Votre rabbin à vous, votre maître à vous, est-ce que lui paye la taxe? Jésus faisait certainement pas partie d'un rôle, d'une liste officielle des rabbins reconnus par les autorités juives. Alors, certaines personnes étaient exemptes. D'où la question qui est posée à Pierre, est-ce que votre maître ne paie pas les deux drachmes? Bon, Pierre s'avance, puis il dit, un peu coincé, ben, il dit oui, il paie la taxe. Lorsqu'il continue, il ne le paie pas à ce moment-là, il fait juste donner une réponse. Et donc, lorsqu'ils se retirent dans une maison ensemble, Jésus va aller au-devant de lui et il va l'enseigner à ce moment-là. On va juste relire la question que Jésus lui pose au verset 25. « Quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'ensemble, Simon? » Comme je vous ai dit, Pierre était son surnom. Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Ce que Jésus fait ici, il veut enseigner, il veut faire réfléchir Pierre, il veut l'aider à découvrir certaines choses, à prendre conscience de certaines choses, et pour le faire, il va utiliser une illustration. L'illustration qu'il utilise, il est en train de dire, bien, s'il y a un roi sur un royaume qui perçoit des impôts, est-ce que vraiment il va percevoir cet impôt-là de tout le monde ou est-ce que ses proches, sa famille ne seront pas exempts de cet impôt-là? Pour l'illustrer autrement, imaginez un instant que moi je serais un riche propriétaire, j'aurais des terres énormes, tellement énormes que pour passer d'ici et vous rendre à Québec, vous seriez obligé de passer sur ma terre. Ce serait génial, hein? Un petit péage, je percevrai un petit montant lorsque vous passez sur ma terre. » C'est logique, non? Quand même, c'est mon droit, il faut que j'entretienne cette route-là. « Je percevrai une taxe, un impôt, parce que vous passez sur ma terre. » Alors, imaginez que Bastien, mon garçon de 9 ans, Jade, ma fille de 11 ans, arrivent avec leur trottinette ou leur bicyclette et veulent passer sur ma terre. Est-ce que je vais leur charger la taxe? Ou est-ce qu'ils vont être exempts de cette taxe-là? Garde, passe, parce que je pense que je suis ton héritier de toute façon. Là. Je peux bien te le payer si tu veux. Mais ils seraient exempts de ça. Pas vous en passant. Esther serait exempt, mais pas vous. Bastien, oui, mes proches peut-être très intimes, mais écoutez, je pourrais quand même pas manquer l'occasion de vous charger ça. Vous comprenez l'image que Jésus veut donner ici? La logique est que les fils d'un roi ne paieront pas cette taxe-là. C'est pour l'entretien de la maison royale. Écoute, tu vas le manger tantôt, le gâteau. Là. Je vais pas te charger les taxes pour. Et il serait exempt de ça. Les proches, les fils seraient exempts d'avoir à payer cette taxe-là. Ça va de soi dans mon illustration, c'est la même chose avec Jésus. Alors, de qui Jésus est en train de parler ici? Qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner exactement? Qui est exempt de payer la taxe dans son illustration? Qui n'a pas à payer cette taxe? Pour comprendre, il faut revenir à la question. La question qui est posée à Jésus, le contexte, c'est une taxe qui est là pour l'entretien du temple. C'est une taxe qui est perçue pour entretenir le temple. Plus tard, Jésus va dire, « Ben oui, je vais la payer, la taxe aux Romains. Si j'avais de l'argent romain, je le donnerais aux Romains. » Ici, il semble dire qu'il y a quelqu'un qui est exempt de payer la taxe. C'est une taxe qui est perçue pour l'entretien du temple à Jérusalem. Est-ce que Jésus doit payer cette taxe-là pour l'entretien du temple? Jésus n'est pas en train de s'opposer à la taxe, hein, ici, vous remarquerez. Il dit même qu'il y a des gens qui devraient le payer. Jésus reconnaît que ce n'est pas un abus de la part des autorités juives d'avoir une taxe qui est là. C'est logique, il faut l'entretenir le temple, il faut en prendre soin. Alors, ce n'est pas que Jésus est en train de s'opposer à la taxe. La question, c'est est-ce que lui devrait payer cette taxe-là? Or, le temple, c'est la maison de Dieu. Symboliquement, vous me direz, parce que Dieu n'habite pas dans un bâtiment, et pourtant c'est la maison de Dieu. Jésus lui-même va l'appeler la maison de son Père dans l'Évangile de Jean. Le temple, c'est la maison de Dieu. Est-ce que Jésus doit payer une taxe dans la maison de Dieu? Revenez un tout petit peu en arrière au début du chapitre 17, et je ne vais pas relire le passage, je veux juste rafraîchir votre mémoire. Parce que la discussion que Jésus est en train d'avoir ici, ce n'est pas avec les gens qui percevaient la taxe, c'est une discussion qu'il a avec Pierre seul, d'accord? Mais Pierre vient juste de vivre quelque chose avec Jésus aussi. Pierre était sur la montagne au moment de la transfiguration. Pierre était là lorsque Jésus a commencé à se transformer littéralement, à se métamorphoser littéralement. Une gloire qui n'était pas la gloire d'un autre a commencé à émaner de lui. Son visage a commencé à briller, non de la gloire d'un autre, mais de la sienne propre. Et comme si les choses n'étaient pas assez claires, la voix de Dieu, qui se fait très rarement entendre dans les Saintes Écritures, s'est fait entendre, c'est la voix du Père. Nous savons que c'est la voix du Père parce qu'il a parlé de Jésus en l'appelant son « Fils ». La voix du Père s'est fait entendre à Pierre, aux deux autres qui étaient là, et elle a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Voilà qui est Jésus. C'est le Fils de Dieu. Est-ce que le Fils de Dieu devrait payer la taxe pour l'entretien de la maison de son Père? Je vous rappelle aussi que lorsque cette voix s'est faite entendre sur la montagne de la Transfiguration, que la nuée est apparue, la Shekina, comme je vous ai dit il y a deux semaines, lorsque Dieu se manifestait à travers une nuée, on l'appelle en hébreu la Shekina, quand Dieu s'est manifesté, les trois disciples qui étaient là sont tombés par terre, effrayés d'entendre cette voix. Qu'est-ce que Jésus a fait? Home sweet home. Jésus est homme, mais il est Dieu le Fils. Et quand le Père s'est manifesté, c'est « Bonjour papa, c'est le fun que tu viennes. » Jésus est chez lui dans la présence de Dieu. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est Dieu le Fils. Il est chez lui dans la maison de Dieu. Est-ce que je vais percevoir une taxe de mon fils Bastien parce qu'il veut passer sur mon terrain? Bastien, t'es chez toi, mon fils. Sache que chez toi, tu n'auras jamais à payer une taxe pour entrer. T'es chez toi, garçon. T'es chez toi, Jade. Entre dans la maison. Viens sur mon terrain. Viens chez toi. Et c'est exactement ça qui se passe avec Jésus. Jésus est le fils bien-aimé de Dieu. Dieu ne percevra pas de lui une taxe. Jésus est le fils unique de Dieu. Il n'a pas de devoir de payer cette taxe. Il n'est pas dans cette obligation. En fait, si on veut bien saisir l'illustration qui est ici, il faut aller plus loin encore. Parce que Jésus va dire plus tôt dans l'évangile de Matthieu en parlant du temple. Jésus va dire en parlant du temple, il y a ici, parlant de lui, plus que le temple. Si je veux comprendre la question qui est posée ici et la réponse que Jésus va apporter, je dois comprendre ce que le temple représente et ce que représente Jésus-Christ. À plusieurs reprises dans ses échanges avec les autorités juives, Jésus va les scandaliser littéralement en déclarant qui il est par rapport au temple. En parlant de son propre corps, puis en laissant une ambiguïté, parce que le temple est là, il va dire « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. » Et il parlait du temple de son corps, sa résurrection. Mais Jésus dit aussi « Il y a ici, avec moi, plus que le temple. » Voyez-vous, Jésus-Christ est le temple parfait de Dieu. Quelque temps plus tard, Jésus va mourir sur cette croix, et lorsque Jésus va déclarer « Tout est accompli », qu'est-ce qui va se passer? Le voile du temple va se déchirer. Le temple va devenir obsolète, inutile, par l'accomplissement de ce que Christ va faire sur la croix. À quoi servait le temple dans l'histoire d'Israël? C'était un endroit où Dieu avait promis à Israël qu'il serait présent et où les Juifs, le peuple choisi de Dieu, pourraient venir rencontrer son Dieu. Dans ce temple, il y avait un lieu saint, un lieu très saint. Le lieu très saint était cet endroit où la présence même de Dieu était manifestée. Ne rentrait pas qui voulait dans la présence de Dieu, sous peine d'être foudroyé par la divinité, par la sainteté même de Dieu, et de mourir sur place. On attachait une corde au pied du prêtre qui entrait une fois par année dans le lieu très saint, de peur qu'il soit trouvé impur, foudroyé de mort. Qu'est-ce qu'on fait? Il est de l'autre bord et il est mort. Parce que moi, je n'irai pas le chercher, toi non plus, puis toi non plus, je ne pense pas. Le temple était cet endroit où les Juifs pouvaient venir pour s'approcher de Dieu, pour venir rencontrer Dieu. On venait au temple sachant qu'on était pécheur, on offrait des sacrifices pour reconnaître qu'on était pécheur et se mettre en règle avec Dieu par la foi pour pouvoir venir rencontrer Dieu. Au moment où Jésus-Christ va venir sur terre, va mourir sur cette croix, le voile du temple va se déchirer en deux. Parce qu'à partir de la venue de Jésus-Christ, nous avons un libre accès dans la présence de Dieu. Et le rôle du temple va être parfaitement accompli. Le temple perd tout son sens parce que en Jésus-Christ, nous pouvons venir rencontrer Dieu. Et c'est pour ça que lorsque l'Apocalypse nous décrit cette Jérusalem céleste, il n'y aura pas un temple particulier, nous allons être dans la présence de Dieu directement. Dieu va être là. Alors non seulement Jésus n'a pas à payer cette taxe pour entrer dans la maison de son Père, ça serait profondément ridicule, mais en plus de cela, dans quelque temps, le temple, toutes les fonctions, tout le rôle, tout ce que symbolise le temple va être parfaitement accompli historiquement. Le temple n'aura plus d'usage et continuer à essayer de s'approcher de Dieu uniquement par le temple et par les sacrifices, c'est rejeter Jésus-Christ. Tout va être accompli en Jésus-Christ et nous pourrons nous approcher de Dieu par le sacrifice seul de Jésus-Christ. Le temple va perdre toutes ses fonctions. Ce serait ridicule que Jésus aille payer une taxe sur sa propre maison. Ce serait ridicule que Jésus paye une taxe pour entretenir une maison qui bientôt n'aura plus aucun usage. Parce que dans sa personne, il va accomplir tout ce que cette maison-là devait faire, tout ce que cette maison représentait. À partir de la venue de Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin d'aller au temple, mais nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité, en tout lieu, simplement parce que nous nous approchons de Dieu par la vertu du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés. Ainsi, tous ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus-Christ n'ont plus besoin de faire aucun rituel. Tout a été accompli par Jésus à la croix. Alors cela ne faisait pas de sens que Jésus ait à payer cette taxe. Jésus n'est pas en devoir de la payer, c'est de lui dont il est en train de parler premièrement ici. Il est le fils de cette maison et son père ne percevra pas de taxe. Il est dans son droit de ne pas payer cette taxe, il est libre de ne pas la payer, il est un fils dans sa propre maison, c'est tout le propos de la lettre aux Hébreux, si vous êtes familier avec le Nouveau Testament, il est chez lui, il a tous les droits, il a les privilèges d'un fils, il est entièrement libre de ne pas payer cette taxe. Et cette histoire dans l'Évangile de Matthieu aurait pu s'arrêter comme ça. Ça aurait pu s'arrêter avec ce verset 25 et s'arrêter ici tout simplement. Jésus alla vers Pierre, expliqua à Pierre pourquoi il n'avait pas à payer cette taxe, parce qu'il est le Fils et il n'a pas à payer une taxe semblable. Et voilà tout, mon cher Pierre. Passons un autre appel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que ça ne serait pas toute la vérité sur Jésus-Christ. Ce serait juste une partie de la vérité sur Jésus-Christ. C'est vrai que Jésus n'a pas à payer cette taxe. C'est vrai qu'il est le Fils de Dieu. C'est vrai qu'on devrait l'honorer et reconnaître qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a tous les droits sur la maison de son Père. Mais Jésus est plus que cela encore. Et donc l'histoire ne va pas s'arrêter là. Il y a une suite à cette histoire. Et je veux faire deux observations concernant ce qui suit justement. Premièrement, il semble que le privilège de Jésus de ne pas avoir à payer la taxe s'étend aux autres, à ses disciples aussi. Et c'est ça qu'on voit dans l'ensemble du Nouveau Testament. Jésus parle ici au pluriel, il va pourvoir lui-même au paiement pour la taxe pour lui et pour Pierre. Et lorsqu'on continue à lire le Nouveau Testament, nous réalisons que bien des privilèges et des libertés qui sont dues à Jésus-Christ, par extension, sont donnés à ses disciples. Paul parle des enfants de Dieu, de ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme des co-héritiers de Christ. Pensez-y un instant. Jésus est le Fils de Dieu. Rappelez-vous la transfiguration. Jésus est le Fils de Dieu. Son visage resplendit comme le soleil. Un peu plus tôt dans Matthieu, il est dit qu'un jour, les justes, leur visage resplendira comme le soleil. C'est pas juste Jésus, là. Tous les justes qui ont cru en Jésus-Christ, leur visage resplendira comme le soleil. Jésus est le digne héritier de Dieu. Il a tous les droits. Il est le Fils unique. Il est l'héritier du Père céleste. Et Paul dit de nous que nous sommes ses co-héritiers. Songez à cela un instant. Quand vous fréquentez un chrétien, une chrétienne, vous fréquentez un prince, une princesse, littéralement, que Jésus a désigné en l'appelant son frère, sa sœur. Nous sommes tous ceux d'entre nous qui avons cru en Jésus-Christ appelés gens de la maison de Dieu, enfants de Dieu. Nous étions des fils et des filles illégitimes. On aurait dû payer la taxe. Mais à cause de notre foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus co-héritiers avec Christ et nous devenons des enfants d'adoption. avec tous les droits et tous les privilèges d'un enfant de Dieu. Et certainement, la responsabilité d'imiter notre Seigneur Jésus. Ma première observation, c'est que les privilèges et les droits de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, par extension, sont donnés à tous ses disciples. Ma deuxième observation, regardez bien ce que Jésus va faire avec ses droits, ses libertés, avec ses richesses. Regardez bien son attitude dans la suite. Verset 27. Mais, dit Jésus, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire qui valait pour 2 personnes, 4 drachmes. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Voyez-vous, lorsque on se laisse aller à des rêveries complètement farfelues de devenir des grands riches qui pourrions donner un peu de nos surplus puis faire de grandes actions avec un peu de richesse, on le fait sans aucun renoncement. Voici un prince. Voici le prince. Voici un roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui a tous les droits, toutes les libertés, toutes les richesses, tous les pouvoirs. Qu'est-ce qu'il va faire? Par amour, par affection, il va renoncer à sa liberté de ne pas payer cette taxe. Il va renoncer à son droit de ne pas payer cette taxe. Par amour, par affection, il va aller servir ces gens et il va la payer, la taxe. Et Jésus est en train de préparer le terrain pour les disciples. Parce que ça revient constamment dans le ministère de Jésus-Christ. Jésus est celui qui se connaît, qui sait combien il est grand, combien il est glorieux, et il est celui qui renonce volontairement à ses droits. Tout notre salut, frères et sœurs, repose sur ce principe. Notre salut, mon espérance, que lorsque je vais me présenter, que je vais entrer dans la présence de Dieu, malgré toutes mes fautes, et penser à vos péchés les plus ignobles, mon espérance est que lorsque je vais me présenter, je vais entrer dans la présence de Dieu, je ne serai pas foudroyé sur le moment. Parce que Jésus-Christ a renoncé à ses droits de prince, d'héritier, de fils de Dieu, pour aller mourir sur une croix. Et qu'à cause de son renoncement, quand je vais me présenter devant le Père, s'il y avait une hésitation de la part du Père, le Fils dirait, « Père, j'ai payé, j'ai renoncé pour Yannick. Laisse-le entrer, Seigneur. Laisse-le entrer. » Et Jésus va incarner ça comme modèle constamment auprès de ses disciples. C'est ce qu'on va continuer à voir la semaine prochaine. Matthieu est en train de préparer Matthieu 18, la suite. Il est en train de nous montrer que Jésus lui-même le fait. Il renonce à ses droits. Et c'est un des principes fondamentaux de la vie chrétienne. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples parce que vous aurez de l'amour les uns pour les autres. Mais Jésus nous dit qu'aimer lorsqu'il n'y a pas de prix, il n'y a rien là. Les païens le font. Les inconvertis le font. Ceux qui ne connaissent pas Jésus sont capables de faire ça. Faites du bien, on va te faire du bien en retour. N'importe qui est capable de faire ça. Mais c'est un principe fondamental du christianisme que nous renonçons à des droits par amour, par affection. Paul va traiter de cela en longueur parce que l'Église ne comprend pas tout cela. L'Église découvre toutes sortes de nouvelles libertés en Jésus-Christ. Les païens qui se convertissent, comme vous et moi, qui ne sont pas d'antécédents juifs, arrivent et puis on leur dit, ben vous n'êtes pas obligés d'observer toutes les lois de l'Ancien Testament. Il y a plein de lois qui ont été accomplies avec le sacrifice de Christ. Vous pouvez manger toutes sortes de viandes. Alors, on a une liberté maintenant. En Jésus-Christ, on est libre de plusieurs lois rituelles de l'Ancien Testament. Et là, il y avait des gens qui faisaient de ces libertés-là, non seulement une liberté, mais un droit, un devoir. J'ai cette liberté. Peu importe si ça te scandalise, toi qui es juif et qui t'es converti. Tu ne saisis pas combien je suis libre, moi. Et là, Paul dit non, vous n'avez rien compris au salut. Vous n'avez pas compris l'Évangile. Jésus a renoncé à ses droits pour que vous soyez sauvés. Qu'est-ce que tu vas faire de tes libertés à toi? Une occasion de chute pour ton frère? Parce que tu as le droit, c'est pas grave si ça le scandalise, lui. Voyez-vous, le christianisme repose là-dessus. Soyons plus pratiques, plus concrets. Vous êtes au travail. Vous êtes au travail, grosse journée, fatigué. Vous avez donné tout ce que vous aviez à donner. Hein? On dit ça? J'ai donné tout ce que j'avais à donner. Bon chrétien, je travaille fort, c'est important d'avoir un bon témoignage. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. Il y a un collègue de travail, ou pire encore, un boss qui arrive, un supérieur, qui arrive et qui dit, hey, écoute, tu pourrais-tu faire ça? Ça va me prendre 45 minutes. Écoute, j'en ai donné beaucoup, là. C'est comme, c'est du temps d'extra que tu me demandes? Puis l'autre question qui suit, c'est, vous savez, j'ai quelqu'un tout près de moi qui, à la blague, disait souvent, Dieu merci, c'était à la blague. Je ne suis pas tout à fait sûr que c'était à la blague. Mais il disait, il ne faut jamais que tu commences à faire quelque chose de nouveau quand quelqu'un te le demande. Parce qu'après ça, ils vont prendre pour acquis que tu dois toujours le faire. Fait que c'est l'autre question qui suit, hein? Oui, mais si je le fais, puis c'est pas dans mes tâches, demain, il va peut-être prendre pour acquis que je devrais le faire encore. Regardez bien qu'est-ce qui se passe avec Jésus ici. C'est assez troublant ce qui est en train de se passer ici. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire si Jésus paie cette taxe-là? La question qui est posée, c'est, est-ce que votre maître n'a pas à payer cette taxe-là? La réponse de Jésus, la conviction profonde de Jésus, c'est, non, j'ai pas à payer cette taxe-là. Ben non, je suis le fils de Dieu. J'ai pas à payer une taxe sur la maison de mon père. Oui, mais il a payé la taxe. Est-ce que, écoute, Jésus, moi, il me semble, tu sais, en bon théologien, je serais allé voir Jésus, puis j'aurais dit, regarde, c'est parce que là, tu communiques pas la vérité sur ta personne. T'as pas à la payer. Ils vont penser que tu dois la payer. Mais t'es le fils de Dieu, là. T'es comme, il y a une contradiction. Qu'est-ce que tu fais là? Là, c'est pas bon, là. C'est même pas la vérité. Pourquoi il paye la taxe? Ça induit les gens en erreur. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas important pour Jésus. Il ne l'aurait pas saisi à ce moment-là. Mais ça aurait été une occasion de chute pour eux. Il va la payer, la taxe. Il va la payer. C'est clair que Jésus aime qu'il n'a pas à payer cette taxe-là. Et il la paye. Et ça peut induire les gens en erreur sur sa personne. Pourquoi il fait? Et voyez-vous, souvent c'est comme ça qu'on raisonne. Il y a quelqu'un qui me demande quelque chose à la maison, je le faisais pas, c'était pas moi qui faisais ça, j'arrive, je suis fatigué, on me demande d'en faire un petit peu plus, mais là, si je commence à le faire, c'est quoi, là? On va penser que ça fait partie de mes tâches. C'est ça? Je pourrais induire quelqu'un en erreur. Je le ferais, tu sais, mais je voudrais pas induire quelqu'un en erreur. Je voudrais pas qu'on prenne ça pour acquis. Je voudrais pas qu'on me prenne pour acquis. J'ai donné ma part. C'est juste là que tu commences à renoncer à tes droits. C'est juste là que tu commences à ressembler à Jésus. Dans cette scène-là, tout le moins. C'est juste quand tu commences à renoncer à tes droits puis à faire plus que ce qui est dû ou nécessaire que tu commences à ressembler à Jésus dans cette illustration-là. Le christianisme, notre témoignage, frères et sœurs, est bâti là-dessus. Des renoncements que nous allons faire dans nos rapports, nos relations au travail, des renoncements que nous allons faire dans nos rapports avec les gens, dans la maison. Et j'entends déjà des gens qui sont en train de dire, « Hey Yannick, t'es-tu en train de nous servir la vieille rengaine catholique qui disait que, tu sais, nous autres, hein, on vaut rien, puis on renonce à nous, puis de toute façon, on mérite rien, fait que on va gagner notre ciel. » Parce qu'on a été habitué à ça au Québec. Et il y a plusieurs personnes ici, vous êtes de cette génération, vous avez vu cette image du christianisme qui était juste des renoncements constants. Et il y avait une notion méritoire là-dedans. J'ai besoin de faire ça pour mériter quelque chose. Remarquez dans le passage ici que Jésus n'a aucun problème d'image personnelle. Jésus sait très très bien qu'il n'a pas à payer cette taxe-là. Il sait qu'il n'a pas à payer cette taxe-là. Jésus n'est pas non plus dans un rapport. Vous savez, il y a des gens qui vont se laisser abuser parfois parce qu'ils ne sont pas bien dans leur peau, puis il faut qu'ils fassent plaisir aux gens pour être bien dans leur peau. Je le confesse, j'en suis un. Alors, des fois, je vous sers avec des mauvais motifs parce que je ne voudrais pas vous déplaire. Ce n'est pas par amour pour vous, c'est par amour pour moi parce que je ne voudrais pas paraître mal. People pleaser, qu'on appelle ça. C'est pas le cas de Jésus ici. Jésus n'a pas de problème d'image personnelle. Il fait pas ça parce que, ah, tu sais, la prochaine fois que je vais passer, il va me regarder croche. C'est pas ça, là, qui se passe ici. Jésus sait qui il est, il connaît ses droits, il est très bien dans sa peau. C'est juste par amour qu'il va le faire. Mais il le fait. Il le fait. Est-ce que ça veut dire, lorsque je vais faire ça, que je vais renoncer à mes droits, que je vais encourager l'abus, par exemple? Je vais encourager des gens à abuser de moi. Je vais encourager le péché parce que, regarde, il est paresseux, il a pas fait son travail, il me demande de faire le travail à sa place. Je suis en train d'encourager le péché. Ben, Jésus était pas mal confrontant, hein? Je veux dire, c'est pas parce que Jésus s'est laissé crucifier que Jésus était du genre qui dénonce pas les choses. Non, il y a des moments où Jésus allait vers la personne puis il confrontait la personne. Je pense que l'équilibre, je pense que la réponse se trouve beaucoup plus dans l'attitude du cœur. Quand quelqu'un te demande d'en faire plus et de renoncer à tes droits, comme c'est le cas de Jésus, qu'est-ce qui va dicter ta réponse? Si c'est non, quel est le motif qui est derrière? C'est mon droit. C'est ma liberté. Pas si tu veux imiter Christ. Si tu dis non, est-ce que c'est... Écoute, je pense que c'est le temps que j'aime me reposer. Jésus le faisait, hein? Jésus partait à l'écart, puis quand la foule courait après, des fois il cédait, puis il leur donnait encore plus de temps, puis d'autres fois il se poussait, parce qu'il était en paix de dire, « Enough is enough, les boys, il faut que j'aille prier, il faut que j'aille prendre du temps avec mon père, il faut que j'aille me reposer, j'en ai plus, là. C'est vide, là. » Et lorsque je dis oui, quel est le motif? J'ai besoin de dire oui, parce qu'autrement je ne serais pas bien dans ma peau, j'ai besoin que les gens m'aiment. Ce ne serait pas le bon motif pour céder vos droits, je vous le dis tout de suite. Mais j'aime Dieu et j'aime les gens et je ne voudrais pas être une pierre d'achoppement pour eux. Et si je peux leur montrer c'est quoi l'amour chrétien, certainement, volontiers, je vais renoncer à mes droits. La beauté dans cette histoire-là, frères et sœurs, et c'est ça que vous devez retenir si vous êtes chrétien. La beauté dans cette histoire-là, c'est que Pierre va payer la taxe. Mais c'est Jésus qui va pourvoir pour qu'il paye la taxe. Et nous devons retenir que chaque fois que nous renonçons à nos droits pour faire du bien, que ce soit en donnant de l'argent, que ce soit en donnant du temps, que ce soit en écoutant quelqu'un, que ce soit en faisant du bien alors qu'on nous fait du mal, à chaque fois nous pouvons avoir la ferme conviction que notre Père céleste qui est dans les cieux observe ce qu'on est en train de faire, qu'il va nous bénir et qu'il va pourvoir dans tous les cas. Jésus-Christ avait le droit de ne pas payer cette taxe-là. On a plein de droits, nous, comme individus et comme chrétiens. Mais par amour, avec une identité totalement assumée, Jésus a décidé de renoncer à ses droits par charité et par amour. Et c'est dans la mesure où nous allons grandir ensemble, dans cette attitude de service les uns pour les autres, et pour la communauté, pour les collègues de travail, que les gens à l'extérieur vont remarquer que nous sommes des disciples de Jésus-Christ parce que nous serons des imitateurs de Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, notre histoire à nous, à partir de notre premier père et de notre première mère, Adam et Ève, ce n'est pas une histoire de renoncement à nos droits, Seigneur. C'est exactement le contraire. Nos parents, Seigneur, voulaient plus de droits, plus de pouvoir et même te voler ton autorité à toi. Alors, Seigneur Jésus, quand tu nous donnes un exemple semblable et que tu nous demandes de laver les pieds les uns des autres, de renoncer à nos droits, de présenter l'autre joue, dans certaines situations, de tolérer qu'une personne soit abusive par affection, par amour. Seigneur, tu nous demandes d'aller contre notre propre nature. Dans ma chair, Seigneur, je ne veux pas céder mes droits. Au mieux, Seigneur, je donnerai le meilleur de moi-même. Et quand je jugerai que c'est assez, ce sera assez, ma conscience sera en paix. Seigneur Jésus, je te demande de m'amener un pas plus loin, marcher 1 mile de plus si on me demande de le faire, tendre l'autre joue par amour, par charité, Seigneur, afin que Esther, Bastien et Jade, ma famille spirituelle dans cette église, les non-chrétiens qui m'observent vivre, puissent dire « Celui-ci ressemble à Jésus-Christ. » C'est dans son précieux nom que nous te prions, Père. Amen.